Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Dans ma jeunesse, j'étais scout. Et l'une des devises du scout est « Scout, toujours prêt ». Baden-Powell, comme le disent les Français, Baden-Powell pour les Anglais, le fondateur du scoutisme, en avait fait sa devise. En pensant à ses initiales BP, et en anglais, il avait pensé à « be prepared ». En français, « soyez prêt » ou « sois prêt ». Et selon lui, sa devise signifiait que l'on doit avoir l'esprit et le corps toujours en état de faire son devoir. Prêt pour ce qui est de l'esprit, parce qu'on s'est imposé la discipline d'obéir à n'importe quel ordre, et aussi parce qu'on prévoit d'avance tous les accidents et toutes les situations qui peuvent se présenter. Ce faisant, on sait le moment voulu ce qu'il y a à faire et on est disposé à le faire. Prêt pour ce qui est du corps, parce qu'on a fait le nécessaire pour être vigoureux et en bonne santé, qu'on est actif et capable d'agir au bon moment. Cette devise exige plusieurs qualités de la part du scout ou de l'éclaireur, comme on appelle aussi les scouts. Premièrement, le souci d'autrui. Le scout est prêt à vivre l'aventure, mais il est aussi prêt à dépanner, à aider et à secourir à la première occasion ceux qui ont besoin d'être sauvés, d'être aidés. Ensuite, la compétence. On ne donne pas ce que l'on n'a pas. La bonne volonté ne suffit pas. Un éclaireur sans compétence, sans technique, ça ne cadre pas avec cette devise. Le scout s'applique donc à acquérir des connaissances techniques pour devenir compétent dans le plus de domaines possible. Ensuite, l'action, ou plutôt l'observation, dirais-je, suivie de l'action. Pour mettre sa compétence au service des autres, il faut apprendre à découvrir ce dont les autres ont besoin et passer à l'action. Bref, être prêt, ce n'est pas se prélasser dans l'immobilisme ou dans l'inaction. Le scout se doit d'être prêt dans toutes les situations. En réfléchissant à ces règles, je n'ai pu m'empêcher d'établir un parallèle avec plusieurs déclarations de Christ. Christ avait eu plusieurs confrontations avec divers responsables religieux. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple avaient mis en doute son autorité. Il leur avait donné la parabole des deux fils, l'un disposé à obéir à son père et l'autre non, et à leur revirement d'attitude respective. Il leur avait donné la parabole des vignerons, qui décrivait en termes à peine voilés son ministère, l'hostilité qu'ils éprouvaient à son égard, et sa mise à mort ultérieurement. Il leur avait donné la parabole du festin des noces, des invités, des appelés, de ceux qui se désistent, de ceux qui ne sont pas prêts. Les pharisiens avaient tenté de piéger Jésus en lui demandant s'il était convenable de payer le tribut à César. Il n'était certes pas prêt à accepter la vérité. Les sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, lui avaient proposé un scénario insensé, avec une veuve ayant épousé 7 frères, et lui avaient demandé lequel de ses frères aurait la veuve pour femme à la résurrection, alors qu'ils ne croyaient même pas à la résurrection. Eux non plus n'étaient pas prêts à accepter la vérité. Un docteur de la loi, l'un des pharisiens, lui avait demandé quel est le plus grand commandement. Il avait interrogé les pharisiens sur son identité, leur demandant d'expliquer pourquoi David, dont il était l'un des fils ou l'un des descendants, l'avait appelé « Seigneur », ce à quoi il n'avait su que répondre. Puis Christ s'était adressé à la foule, condamnant longuement les scribes et les pharisiens, notamment pour leur hypocrisie et leur vanité. Puis Christ s'était affligé du peu d'intérêt que le peuple avait pour la vérité et pour la justice, de ce qu'ils n'étaient pas prêts à effectuer les changements nécessaires dans leur vie pour connaître le vrai bonheur. Alors qu'ils s'éloignaient du temple où avaient apparemment eu lieu toutes ces confrontations, ses disciples, qui l'avaient suivi, lui avaient fait remarquer la magnificence du temple et de ses annexes. Il les avait alors surpris en annonçant sa destruction ultérieure. L'hostilité des dirigeants religieux et la mauvaise volonté de tant de gens se dressaient en toile de fond de la prophétie de Christ sur le mont des Oliviers à propos de son second avènement. On a du mal à imaginer le niveau de stress auquel Christ était souvent soumis du fait que peu étaient prêts à accepter la vérité, prêts à changer et prêts pour le royaume. J'ai été frappé par le nombre d'allusions faites par Christ dans les 24e et 25e chapitres de Matthieu, à la nécessité d'être comme des scouts, toujours prêts. Matthieu chapitre 24 et le verset 1. Matthieu chapitre 24 et le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier, ça c'était pas avec toute la foule, c'était en particulier juste le petit groupe, il va en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Sommes-nous prêts pour cela? Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est se discipliner pour être toujours prêt. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pas pour convertir le monde, mais pour servir de témoignage. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, et cela ne s'est pas encore produit. Il y a dualité dans cette prophétie. Cela s'est produit à un moment donné dans le passé, mais cela va se reproduire à plus grande échelle. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il ne faudra pas regarder en arrière. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Il est donc question d'une période unique dans toute l'histoire ici. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Pourquoi ? Parce que, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et, je disais verset 27, mais cela va jusqu'au verset 30 maintenant, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tous le verront. Il n'est pas ici dans le désert ou là-bas. Non, tous le verront. Toutes les nations le verront. Il ne va pas revenir en secret, autrement dit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Il arrive bientôt. Assurez-vous d'être prêt. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et quand Christ dit cela, évidemment, c'était le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, le Fils le sait, parce qu'il est auprès du Père. Et à l'époque, il ne savait pas, le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le monde n'était pas prêt. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. L'un sera prêt et l'autre non. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'une sera prête et l'autre non. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, toujours prêt à faire son devoir? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, ne se souciant pas d'être prêt. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'étaient pas spirituellement prêtes. Mais les sages prirent avec elles leur lampe. Après, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Elles étaient toujours prêtes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Elles n'ont plus suffisamment de Saint-Esprit, elles ne sont pas prêtes. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles y allaient et qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à un autre, et à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Il était toujours prêt. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Lui aussi était prêt. Excusez-moi. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il ne se souciait pas d'être prêt. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Il était prêt. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. » Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es prêt. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné, c'était son opinion, bien sûr. J'ai eu peur, et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, selon tes propos. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, les brebis, Venez, vous qui êtes béni de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé à la fondation du monde, ou dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous avoir eu faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il est question d'être prêt, là aussi. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison. Et vous ne m'avez pas rendu visite. » Autrement dit, il n'était pas prêt à agir en chrétien. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Dans 2 jours, frères et sœurs, nous célébrerons la fête des trompettes. Si vous consultez plusieurs versions, vous constaterez, comme moi, que non seulement il est question du premier jour du 7e mois de l'année sacrée, dans le calendrier hébreu, mais qu'il s'agit en outre, d'un repos solennel, d'un rappel à son de fanfare, d'une sainte convocation, ou d'un jour de souvenir et d'ovation, ou d'un mémorial de jubilation, ou d'un appel en clameur, ou d'un repos sabbatique d'évocation et d'acclamation, ou d'un jour de sonnerie de trompette avec un rassemblement cultuel. Cultuel, pas culturel, mais cultuel, qui a à faire avec le culte, autrement dit. Chaque version semble avoir traduit à sa manière. Mais ce qui est dommage et navrant, c'est qu'aucune de ces versions citées semble vouloir mentionner que ce jour-là, on sonnait du shofar. Mot qui apparaît dans l'original. En fait, dans la plupart des cas, quand il est question de trompette, dans les Bibles hébraïques et chrétiennes, il s'agit en réalité de shofar. Qu'il s'agisse de la communication par Dieu des 10 commandements à Moïse, ou de la sonnerie de la dernière trompette annonçant la résurrection des morts, il est question de cornes de bélier, de shofar, et non de trompette comme celle qui se joue partout dans le monde dans des orchestres. Pour nous autres chrétiens, ce qui nous intéresse, c'est la description que Dieu ou la Bible donne de ce jour. En fait, d'après cette dernière, s'agit-il d'un jour, le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur ne sera pas un jour de 24 heures. Des passages comme Ésaïe 63, 4 et Ésaïe 34, 8 et la chronologie du livre de l'Apocalypse indiquent que le jour du Seigneur, qui représente l'époque de vengeance de l'Éternel sur une humanité rebelle et corrompue à l'extrême, prise de folie destructrice, durera approximativement 1 an. Le jour du Seigneur, d'après les indications bibliques, durera environ un an. Ésaïe 63, versets 3 et 4, Ésaïe 63, c'est l'indication qui semble y avoir. Ésaïe 63 et les versets 3, Ésaïe 63, verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et Ésaïe 34, quelques chapitres auparavant, Ésaïe 34, verset 8, verset 8, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de l'Éternel. Semble donc, d'après ces deux passages, il semble donc qu'il soit question d'une année, d'un an à nouveau. Frères et sœurs, sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts? Si nous sommes des serviteurs fidèles et si nous prenons notre appel au sérieux, nous devons agir comme de bons scouts. Nous assurer que nous sommes, pour reprendre leur devise à eux, toujours prêts. Luc chapitre 21, verset 36. Luc chapitre 21 et le verset 36. Et nous lisons ici dans la version Darby, qui est la plus proche de l'original. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Il est clairement question ici d'être prêt. Pour nous autres chrétiens qui nous basons sur la parole infaillible et inspirée de Dieu, la Bible, le jour du Seigneur est synonyme du retour de Christ pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. C'est également ce que préfigure la fête dite des trompettes ou des chauffards, dont il est question dans de nombreux passages bibliques. Le jour du Seigneur ou jour de l'Éternel est aussi un prélude à un événement magistral, d'une portée incalculable. Un jour que notre Père Céleste et son Fils attendent avec impatience, car ce sera un moment de grande joie, de formidable réjouissance pour eux et pour les vrais chrétiens. Pour nous autres chrétiens, le retour de Christ ici-bas pour instaurer le royaume de Dieu et inaugurer 1000 ans de paix sous Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, doit être le point focal de notre croissance spirituelle, de notre conversion et de notre préparation. Ne perdons pas de vue l'incroyable potentialité et la grande aventure dans laquelle nous sommes tous impliqués. Je ne me reporterai pas aujourd'hui au premier chapitre de la Genèse, qui parle du départ d'Adam et Ève du jardin d'Éden, pour essayer autre chose. Vous qui m'écoutez, cette histoire, vous la connaissez très bien. Ce à quoi je voudrais que nous réfléchissions aujourd'hui, c'est au plan B, en quelque sorte, que notre Père Céleste avait en réserve et a mis en branle, au cas où l'homme déciderait d'expérimenter. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour notre Père Céleste, ce qui importe le plus, c'est que nous finissions par choisir son caractère et son système de valeurs. Sa façon de vouloir, de voir, pardon, sa façon de voir, sa façon de vouloir aussi finalement, c'est vrai quand même. Et il voulait à tout prix, et veut à tout prix toujours, que nous fassions volontairement ce choix, de tout notre cœur. Il avait prévu notre longue escapade, il est écrit dans Apocalypse 13, 8, que son Fils serait directement et personnellement impliqué dans un réajustement spirituel colossal. Il est question dans ce passage de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dieu était disposé, dès le départ, à sacrifier son propre fils pour mener à bien son plan consistant à fonder sa propre famille. Et le fils était disposé à souffrir pour que nous puissions entrer dans leur famille. Il nous aime à ce point. Et Christ nous aime à ce point. Par contre, Satan, le philosophe véreux qui se trouvait en Éden, a essayé de saboter le plan divin. Mais Dieu avait prévu la manœuvre et a mis en branle un plan magistral garantissant l'ultime succès de son plan, utilisant même de manière brillante l'expérience humaine. Incidemment, dans ce passage d'Apocalypse 13:8, une meilleure traduction de « dès la fondation du monde » serait plutôt « dès la ruine, la perturbation ou le bouleversement du monde ». Est-il question du monde pré-adamique ou du monde que nous connaissons? Cela n'est pas précisé. Mais une chose est certaine, Dieu avait prévu une expiation des péchés de l'humanité pour ses enfants prodigues, par millions et même milliards, qui finiraient par revenir vers lui, revenir vers le Père. Deux choix s'offraient à nos premiers parents. Le premier choix, c'était une obéissance totale, sanctionnée à un moment donné par une pleine communion avec Dieu, symbolisée par l'arbre de la vie, le Saint-Esprit, sans la moindre déviation de la voie divine, apprenant aux côtés du Tout-Puissant et apprenant à être à cause de la révolte d'un tiers des anges. Et le deuxième choix était une pleine expérimentation de la liberté de choix, et l'emprunt d'une autre voie, menant à la destruction et à la ruine, et aussi l'occasion d'apprendre des leçons importantes et de choisir volontairement de s'associer éternellement, tout compte fait, au Père en revenant au bercail. Quel scénario Dieu préférait-il? Quand on sait que Dieu veut à tout prix que ses enfants soient libres de choisir, de choisir de faire partie de sa famille, ils attendaient probablement dès le départ à ce qu'il y ait des fils prodigues. Était-ce un échec de sa part? Probablement pas. Cela faisait partie de son plan dès le départ. La formation de son caractère parfait, juste et saint en l'homme a toujours été de la plus haute importance. Et la souffrance allait devoir jouer un rôle clé dans l'obtention de ce caractère saint, juste, parfait. Mais le départ de ces enfants d'Éden exigeait une expiation des péchés commis et une réconciliation avec lui, avec le Père. Il exigeait l'événement majeur qu'est le jour du Seigneur, symbolisé ou préfiguré par la fête des trompettes que nous nous apprêtons à observer. Selon vous, quelle vie Adam et Ève avaient-ils dans le jardin d'Éden? Dieu était-il seulement un visiteur occasionnel ou un compagnon merveilleux de tous les jours, de nombreux instants? Était-il un être d'une grande bonté, affectueux au possible, bienveillant, généreux, drôle, extrêmement intelligent, artiste, toujours positif et encourageant, très spirituel et éloquent, sage, patient, miséricordieux, et même davantage? Nos premiers parents profitaient-ils à fond de cette merveilleuse ambiance familiale qu'il dut y avoir dès le commencement, au domaine familial? N'était-ce pas un paradis? Qu'est-ce qui a été perdu dans ce paradis perdu? Était-il en fait nécessaire que l'homme fasse personnellement l'expérience d'un certain nombre d'échecs et de la souffrance afin de devenir plus fort dans son ultime engagement dans la voie divine pour l'éternité? Notre article « Pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance » sur notre site « Vie, espoir et vérité » parle de cela. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous le conseille. Le fils aîné de la parabole du fils prodigue dans Luc 15 reste avec le père. Et pourtant, il n'a pas la bonne attitude. Il souffre de propre justice. Trait désastreux de caractère que Dieu rejette à tout prix, étant l'un des principaux défauts de Satan. Le fils aîné manque d'amour et de miséricorde, de compassion. Alors qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? Hébreux chapitre 2, verset 5. Hébreux chapitre 2 et le verset 5. Ce n'est pas à des anges que tu as soumis le monde à venir dont nous parlons. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Cela ne s'est pas encore produit, mais c'est à venir. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il veut conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Y a-t-il jamais eu en Éden un moment où le vrai repentir n'était pas nécessaire pour l'homme dans l'accomplissement de son ultime potentialité? L'apparition du mal dans le royaume éternel du Tout-Puissant, par la rébellion de l'archange Lucifer et d'un tiers des anges, a-t-elle provoqué un précédent qui, tout compte fait, tournera à notre avantage, en ce sens qu'elle expose l'humanité aux conséquences, aux fruits et aux terribles échecs d'une voie contraire à celle de Dieu? Dieu est si brillant et d'une sagesse si grande qu'il a su, bien qu'attristé, tirer profit de toute rébellion et du mal. En voyant tout le mal qui nous entoure, ne sommes-nous pas de plus en plus persuadés que seule la voie d'amour de notre Père Céleste est la bonne? Le mal ne nous vaccine-t-il pas définitivement contre l'adoption de cette voie inique et terriblement destructrice? Lucifer et un tiers des anges ont refusé de réaliser le dessein pour lequel ils avaient été créés. Ils ont voulu essayer autre chose. Ils étaient libres de choisir. Cela, la Bible l'indique clairement, ils ont mal choisi et ils refusent apparemment d'admettre leur tort. Le problème avec cette rébellion et cette déviation de la voie divine est que, puisque la loi divine est en tout point parfaite, produisant toujours de merveilleux résultats, Tout ce qui s'en écarte était et continue d'être et demeure à jamais le péché. D'où à un moment donné la nécessité du jour du Seigneur. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour le jour du Seigneur? L'apôtre Jean a expliqué que le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3:4. Nous connaissons ce passage. C'est emprunter une voie contraire à celle de Dieu. Et Paul nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et puisque tous les humains ont décidé de quitter le domaine du Père pour tenter leur propre expérience, en profitant à fond de leur libre arbitre, tous ont péché. et tous sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23, méritant de ce fait la mort. Est-ce à cause de la révolte d'un tiers des anges que Dieu a décidé de créer sa propre famille, de se reproduire? Est-ce à ce moment-là que Dieu a conçu ce plan en créant les hommes mortels, sujets au péché et à ses terribles conséquences, mais aussi accessibles pour changer, se réformer et devenir des êtres spirituels parfaits? Dieu avait-il prévu le projet humain bien avant la révolte des anges, à présent déchus? Ce projet les a-t-il incités à se rebeller? Par jalousie? Se sont-ils érigés en juges du Tout-Puissant, en juges de ses voies, le critiquant, le condamnant, diffamant son caractère? Dans un cas comme dans l'autre, que souhaitait Dieu? En péchant, nous sommes tous devenus des enfants prodigues. Et à partir de ce moment-là, et grâce à l'appel divin au repentir, au moment opportun, c'est à nous qu'est revenue l'initiative de chercher à rentrer au bercail et de revenir à notre Père en toute sincérité, de tout notre cœur, et ou alors de choisir à demeurer perdu à jamais, de devenir des avortons spirituels. Notre Père céleste est en train de se reproduire, de créer des êtres selon sa propre espèce. Mais notre Père céleste veut à tout prix que nous sachions que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Nous connaissons le passage, Ézéchiel 18 et le verset 20. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Il y a un certain nombre de choses que notre Père céleste veut que nous comprenions avant que n'ait lieu le jour du Seigneur. Premièrement, il veut que nous soyons de fidèles serviteurs. Nous devons être de fidèles serviteurs. Matthieu 25, verset 16. Matthieu 25 et le verset 16. Tout cela dans le contexte d'être prêt, comme je le disais au début. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes comme les scouts, toujours prêts? S'il nous arrive quelque chose aujourd'hui ou demain, sommes-nous prêts? Nous devons être de fidèles serviteurs. Cela fait partie du cheminement. Matthieu 25 et le verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Nous avons lu cela auparavant. Son maître lui dit, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu es prêt, tu étais prêt, tu étais toujours prêt comme les scouts. » Deuxièmement, nous devons être plus que vainqueurs. C'est pas seulement être vainqueur, une fois qu'on a vaincu, souvent on se repose sur ses lauriers. Mais ce n'est pas notre avenir, frères et sœurs. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8 et le verset 35. Nous devons être plus que vainqueurs. Nous devons adopter la mentalité du royaume de Dieu. Nous devons adopter la mentalité du royaume de Dieu. Romains 8. 35, Romains chapitre 8 et le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce cela que nous ressentons? Est-ce notre impression? Est-ce notre opinion? Malgré toutes nos épreuves, frères et sœurs, malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà une façon positive de voir les choses. Paul ne parle-t-il pas ici de quelque chose qui dépasse et de loin une simple victoire superficielle? Il parle d'une victoire en profondeur, d'une victoire spirituelle, avec tout ce que cela sous-entend. Ce que cela sous-entend notamment, c'est que nous devons être suffisamment prêts lors du retour de Christ, préfiguré par la fête des trompettes. Et être suffisamment prêt, c'est avoir suffisamment acquis le caractère divin. Je dis bien suffisamment, car aucun être humain ne peut être parfait en la chair. Mais Dieu regarde au cœur. Et il se base en grande partie, son évaluation sur notre attitude. Quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu doit développer en lui le caractère divin, saint, juste et parfait de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. Ce caractère doit être édifié par le choix volontaire et par la volition de celui ou de celle en qui il se développe. Le caractère saint, juste et parfait consiste dans une entité séparée à pouvoir discerner le bien du mal, à choisir de se soumettre entièrement et sans condition à Dieu et à sa voie parfaite, à se plier à lui et à se laisser conquérir par lui, à se forcer à pratiquer le bien et à le vivre, malgré la tentation ou l'intention personnelle de faire le contraire. Et ce caractère saint est un don de Dieu. Il ne s'édifie que par la soumission à Dieu. Sommes-nous soumis à Dieu? Cela aussi est intimement lié à notre degré de préparation. Sommes-nous prêts? Dans quelle mesure sommes-nous soumis à notre Père céleste? La réponse à cette question est directement liée à notre degré de préparation spirituelle. Si nous sommes soumis à notre Père céleste, entièrement conquis par lui, nous sommes prêts. Troisième chose à faire, c'est en notre Père céleste que nous devons nous glorifier. C'est dans notre Père céleste que nous devons nous glorifier et non en nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 31. Comme il est écrit, sous-entendu dans Jérémie 9, 24, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans Jérémie 9, 24, il en effet écrit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Quatrièmement, nous devons travailler avec zèle à ce qui est invisible, frères et sœurs, à ce qui est invisible mais vital aux yeux de notre Père céleste. Je répète, nous devons travailler avec zèle à ce qui est invisible. Invisible mais vital aux yeux de notre Père céleste. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9. 1 Corinthiens 2, 9, nous n'avons pas à aller loin. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, au cœur du commun des mortels. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que nous aimons Dieu? Dieu nous les a révélés par l'Esprit, par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Cinquième chose à faire, frères et sœurs, les injustes, nous rendre compte que les injustes n'hériteront pas le royaume. Cela, nous devons bien le comprendre aussi, et je pense que nous n'avons pas ce problème en général, nous comprenons bien cette chose. Mais les injustes n'entreront pas dans le royaume. 1 Corinthiens 6, nous restons un peu dans Corinthiens ici. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 9. Paul nous dit ceci, il nous rappelle ceci, frères et sœurs. Sommes-nous prêts comme les scouts Travaillons-nous à être toujours prêts, quoi qu'il arrive? S'il nous arrive quelque chose, est-ce que nous sommes prêts? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Que devons-nous faire encore, frères et sœurs? Que devons-nous faire encore avant que n'ait lieu le jour du Seigneur? Rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est ce que déclare la Bible. À nouveau, nous sommes encore dans 1 Corinthiens 6 et le verset 19 maintenant. 1 Corinthiens 6 et le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Septième chose à faire pour nous préparer. Nous devons courir de manière à remporter le prix du vrai paradis. Je répète, nous devons courir de manière à remporter le prix du vrai paradis. Cela demande des efforts. Remporter un prix, courir, un coureur fournit beaucoup d'efforts pour remporter le prix. Nous devons faire la même chose. 1 Corinthiens chapitre 9, nous sommes encore dans 1 Corinthiens, tellement de choses dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, pour quelque chose d'invisible, comme nous le voyons il y a quelques instants. Jean chapitre 15, verset 8. Jean chapitre 15 et le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voulez glorifier le Père, nous voulons glorifier le Père, portons beaucoup de fruits, des fruits spirituels bien entendu. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vous reconnaîtrai, je serai que vous êtes à moi. Proverbe chapitre 26, verset 1, Proverbe chapitre 26 et le verset 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Les insensés n'auront pas la gloire dans leur royaume. Nous devons nous préparer, nous devons faire en sorte que ce caractère saint, juste et parfait est édifié en nous. Frères et sœurs, nous approchons du début de la grande moisson d'âmes de la terre. La question pour nous est de savoir quel est notre investissement. 2 Corinthiens chapitre 9, nous sommes dans Corinthiens à nouveau, mais 2 Corinthiens cette fois. 2 Corinthiens chapitre 9 et le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que sous-entend être prêt à nouveau? Eh bien, nous devons prendre garde, nous devons veiller et nous devons prier. Prendre garde, veiller et prier. Prendre garde, veiller, prier. Marc chapitre 13, verset 33. Marc 13 et le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et à nouveau, nous ne savons quand notre vie va se terminer. Nous ne savons pas. Quand on est jeune, c'est facile de se dire, « Ah, j'ai toute ma vie devant moi. » Ne vous y trompez pas, vous les jeunes. Votre vie peut être abrégée même quand vous êtes jeune. Cela s'est passé pour plusieurs de nos jeunes, qui étaient probablement prêts, mais nous ne savons pas quand notre vie va se terminer. Ah, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour le royaume? Nous devons faire comme les scouts, nous arranger que chaque jour qui passe, nous nous préparons le plus possible. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, quand votre vie cessera. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, endormi spirituellement parlant. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, veillez. Cela est important, frères et sœurs. Je voudrais que nous nous portions maintenant à Romains chapitre 13 et le verset 1, verset 11. Romains chapitre 13 et le verset 11. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Christ a dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44, nous l'avons lu il y a quelques minutes. Mais maintenant, Romains chapitre 13 et le verset 11. Romains chapitre 13 et le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et en guise de conclusion, je voudrais que nous nous reportions maintenant à Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6 et le verset 9. Cette exhortation est pour nous tous, frères et sœurs. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.